Tous les rockers, ici Max pour votre rendez-vous After Work Metal sur Radio B. Chaque émission, j'essaie de vous proposer une thématique en particulier, et certaines thématiques me semblent indispensables à aborder tant elles peuvent être d'actualité. Et pour aujourd'hui, donc, on va parler un petit peu donc, du mois de juin, mois des fiertés. Je vous rappelle que si vous ne le savez pas, donc, c'est le mois des fiertés. C'est un mois que j'ai envie de mettre un petit peu plus en lumière, puisque certaines personnes, donc on va résumer sous le groupement LGBTQIA+. Alors, pour cette émission, je me suis dit que j'allais vous présenter certains des artistes rock-metal qui sont liés de près ou de loin à ce mouvement. Et on attaque tout de suite avec les icônes du heavy metal, Judas Priest. Et c'était donc Judas Priest, groupe fondé en 1970 en Angleterre par le guitariste KK Downing et le bassiste Ian Hill. Judas Priest sera un des groupes les plus marquants des années 80. La voix du chanteur Rob Halford, associée au style heavy metal, en est l'une des caractéristiques principales. Et Judas, c'est aussi un style vestimentaire reconnaissable entre mille, entre cuir et veste cloutée. C'est un véritable style biker qui s'est développé. Et si vous connaissez le groupe, c'est pour Rob Halford que j'en parle aujourd'hui. En 1998, Halford révèle son homosexualité lors d'une interview accordée à MTV. Son orientation sexuelle était déjà connue des membres de Judas, et par sa grande influence sur la musique metal, il a été surnommé le Metal God. il est l'une des rares rockstars à être ouvertement gay. Alors, quand on pense au métal et puis au mouvement LGBT, on pense pas forcément au black metal, qui est un genre froid et sombre de cette musique. C'est un courant assez mystique, et puis on pourrait penser assez fermé. Et pourtant, on peut retrouver certains musiciens, comme par exemple Gaël, qui officiait notamment dans Gorgoroth. Et oui, c'était bien Gorgoroth sur Radio B. Et franchement, quand on connaît le thème du jour, vous allez comprendre pourquoi après j'en ai parlé. Mais franchement, avoir du black dans une émission, c'est franchement cool. Alors, donc Gorgoroth est un groupe norvégien donc basé à Bergen. Il a été formé en 1992 par le guitariste Infernus, qui est le seul membre originel restant. Et ce groupe-là a sorti 9 albums studio. Gorgoroth est un groupe satanique qui a suscité un petit peu la controverse en raison de certains de leurs concerts, qui ont présenté notamment par exemple des têtes de mouton empalées, des crucifixions. C'était un petit peu la bête noire du métal. Le groupe est nommé d'après le plateau des ténèbres dans le pays du Mordor de l'univers de Tolkien. Donc on sent un certain attachement au monde fantastique, à la fantasy, voilà, qui a un certain attachement du groupe. L'histoire de Gorgoroth, elle est compliquée si on prend en compte les nombreuses condamnations, les années de prison de plusieurs de ses membres. Le line-up du groupe a pas mal bougé de nombreuses fois, avec même la tentative d'éviction de Infernus par Gaël et King of Hell. En juillet 2008, Gaël, donc le chanteur, a révélé dans une interview en ligne qu'il était impliqué donc dans le lancement de Winnio, une collection de mode féminine à venir avec l'agent de mannequin norvégien Dan De Vero et la créatrice Sonia Wu. Donc voilà, encore une fois, black metal et mode sont pas incompatibles, hein, selon Gaël. Dans le même temps, il a été révélé que lui et De Vero, donc le créateur, l'agent de mannequin, étaient en couple à l'époque, mais ne l'étaient plus au moment de la création de cette marque de vêtements, mais qu'ils étaient encore bons amis. Et dans une interview pour le numéro de novembre 2008 de Rock Hard, Gaël a confirmé donc qu'il était homosexuel. En mars 2009, on a un petit changement au niveau de Gorgoroth, puisque le différend sur le nom qui avait eu lieu en 2008 a pris fin. Et lorsque le tribunal du district de la ville d'Oslo a statué que Infernus était le propriétaire légitime du nom de Gorgoroth. Et en fait, ça a été découvert qu'en essayant d'évincer Infernus, Gaël et King, en fait, ils s'étaient plutôt eux-mêmes exclus du groupe. Donc du coup, en fait, ça paraissait logique que Infernus garde le nom. Bah, les deux exclus, en fait, ils ne se sont pas non plus laissés abattre. C'est comme ça qu'est né aussi le groupe Godseed, dont le nom est tout aussi fameux maintenant que Gorgoroth. Alors, outre sa carrière musicale, donc Gaël, chanteur de Gorgoroth, était donc aussi peintre. Il expose ses peintures à la galerie Fjallar dans sa ville natale de Bergen. Gaël est un pratiquant du chamanisme nordique et il est fortement opposé au christianisme et il a souvent été pris pour un sataniste, mais il refuse d'être étiqueté comme tel. Dans une interview de 1995, il a quand même dit « Je suis mon propre Dieu comme je suis mon propre Satan. Je ne suis donc pas un sataniste à en juger par ces termes. » En même temps, vu comme ça, mais bon, on ne pourra pas lui enlever sa liberté de penser et sa liberté d'expression, même si certains de ses actes peuvent quand même laisser à désirer. Allez, on va maintenant changer de registre et changer de pays. On va passer auprès des Américains de Hotep. Et c'était donc Hotep, et la première réponse que j'ai envie de vous donner par rapport à ce groupe, c'est d'où vient le nom du groupe ? Et bien tout simplement de sa chanteuse, Hotep Shamaya. Le groupe est formé à la fin des années 2000 en Californie et se fait remarquer par Sharon Osbourne, la femme de Ozzy, qui a été assez impressionnée pour offrir à Hotep la possibilité de jouer à l'Ozzfest en 2001. Pendant ce temps, le groupe n'a aucun contrat, mais c'est après quelques concerts et sans démo qu'Hotep signe avec Capitol Records. 9 albums après et un nouveau contrat chez Napalm Records, Hotep sort The Godslayer le 15 septembre 2023. Lors d'une interview, la chanteuse Hotep Shamaya exprime des doutes sur le fait d'enregistrer un nouvel album par la suite. Et le 16 novembre 2024, elle confirme sa retraite totale du monde musical ainsi que la cessation d'activité du groupe Hotep. Et elle propose même de revendre son matériel de tournée aux internautes intéressés. Shamaya s'essaye entre-temps au cinéma et apparaît dans Le Hobbit, la bataille des cinq armées, en tant qu'actrice de doublage pour des créatures. Elle a aussi participé à la série télévisée Deaf Poetry de HBO. En 2010, Shamaya a été nominée au GLAAD pour la meilleure artiste musicale aux côtés de Lady Gaga qui a gagné et d'Adam Lambert. Shamaya se revendique lesbienne et végétalienne et elle est aussi connue pour être une défenseuse des droits des animaux. Elle a également pris la parole lors de la Convention nationale démocrate de 2008. Allez, par la suite, je vous propose qu'on retourne un petit coup en Angleterre, puisque après Judas Priest, il était impensable que je ne vous parle pas de cette méga star que vous connaissez tous. Vous avez repris ces paroles en cœur et à fond, que ce soit chez vous, sous la douche ou même lors des événements sportifs ou au cinéma encore. Vous n'avez toujours pas trouvé de qui il s'agit ? Si je vous dis Somebody to Love, vous allez bien comprendre que c'est de Queen qu'on va parler par la suite.
Somebody to love, find me somebody to love, find me.
Et c'était donc Queen, juste pour vous, sur Radio B. Queen, vous pouvez les écouter de 9 à 90 ans, telle est la tranche d'âge du public de Queen, des enfants aux retraités. Queen est entré aux côtés des Pink Floyd et des Beatles dans l'Olympe des immortels, apprécié tant des amateurs de hip-hop que des mordus de métal. Rien n'a jamais été figé dans l'univers de Queen. C'est ce qui le rend parfait pour tous ceux qui souhaitent l'aimer encore aujourd'hui. Sans compter un détail non négligeable, c'est la personnalité extraordinaire de Freddie Mercury, frontman, interprète et moteur du groupe. Ce n'était pas un chanteur comme les autres, c'était une rockstar surprenante et capable de chanter comme personne. L'histoire de Mercury et de Queen s'arrête malheureusement au Live Aid de 1985. Allez, j'ai prévu quelques petits chiffres clés pour vous juste sur la carrière de Queen quand même. 300 millions, c'est le nombre de disques vendus à l'heure actuelle par le groupe. 1946, c'est l'année de naissance de Farrokh Bulsara, futur Freddie Mercury, qui il est né à Zanzibar. 707, c'est le nombre de concerts donnés par le groupe jusqu'à la mort de Freddie Mercury. Donc Freddie, vous le savez déjà, c'est une icône du mouvement LGBT. Le chanteur a mis des années avant d'assumer son attirance pour les hommes. Et Freddie Mercury, il aura même été marié pendant de très nombreuses années à une femme. Et de leur rencontre en 1969 jusqu'au décès du chanteur en 1991, Freddie Mercury et Mary Austin auront vécu une histoire puissante où amour et amitié ne se seront jamais vraiment quittés. Freddie Mercury n'a révélé publiquement qu'il était atteint du VIH que la veille de sa disparition, survenue le 24 novembre 1991, et il avait alors 45 ans. Freddie Mercury est toujours bel et bien vivant malgré tout, avec sa musique, ses chansons et son groupe, ses excès, ses amours et ses faiblesses. Et la magie du spectacle fait qu'il ne meurt jamais. Du glam au stadium rock, Freddie Mercury a révolutionné le monde de la musique avec ses bizarreries vocales et ses chansons indéfinissables. D'ailleurs, le groupe poursuit aujourd'hui sa carrière avec le génialissime Adam Lambert derrière le micro. Et le talent est clairement là, et la voix rend tellement bien sur toutes les plus belles chansons de Queen. Allez, on va changer carrément de style, mais dans un style tout aussi cool, bien sûr. On va passer avec les maîtres du funk metal, Faith No More.
Some more. You got to share it, so you dare grip it. You grip it, hey, you.
Et c'est en 1981 que les musiciens californiens Mike Billy Gould, Mike Morris et Wade Worthington, originaires de la baie de San Francisco, forment le groupe Faith No Man. Un an plus tard, lorsque Worthington fut remplacé par le claviériste Roddy Bottom ainsi que Mike The Man Morris fut évincé, le groupe prit le nom donc de Faith No More. Après avoir connu plusieurs chanteurs, dont Courtney Love, le groupe fut rejoint par Chuck Mosley en 1983. La même année, Jim Martin fut recruté pour remplacer le guitariste Mark Bowen. Une démo de 4 chansons a été enregistrée en 1984 et donna naissance au premier véritable album du groupe, We Care A Lot, sorti sur Mordam Records en 1985. Oui, un début de carrière chaotique, on va dire, pour ce groupe qui aura marqué les esprits. En moins d'un an, le groupe signe chez Slash Records et sort son deuxième album, Introduce Yourself, en 1987. La tournée qui suit apporte à Faith No More une bonne couverture médiatique en Europe, mais à la fin de celle-ci, le reste du groupe décide de licencier Mosley en raison de son alcoolisme constant et de ses capacités vocales limitées et de ses disputes et aussi beaucoup de ses disputes avec ses camarades. Mike Patton, alors leader du groupe Mr. Bungles d'Eureka en Californie, fut un remplaçant suggéré par Jim Martin qui avait entendu une démo révélant le côté death metal disparu de Mr. Bungle. Patton fut donc engagé en 1989. Et en deux semaines, il a écrit quand même les paroles des chansons sur lesquelles Faith No More travaillait pour leur prochain album. Et donc, l'album The Real Thing sort 6 mois plus tard. Cet album fut un succès critique et le groupe partit donc rapidement en tournée avec Metallica jouant devant un public immense. Malgré cela, ce n'est qu'avec la sortie du single Epic, que l'on a écouté, en janvier 1990, que la popularité de Faith No More explosa aux États-Unis, en grande partie grâce à la forte diffusion du clip. Et oui, les membres du groupe de rock culte Metallica et Guns N' Roses citent quand même Faith No More parmi leurs groupes de rock préférés. Ça, franchement, c'est classe, quoi. Et le groupe fut quand même nommé aussi aux Grammy Awards pour la meilleure performance heavy metal hard rock. À la fin de l'année, The Real Thing était disque de platine aux États-Unis. Au début de l'année 98, les rumeurs de séparation se répandent de plus en plus avec beaucoup d'intensité. On spécule que les nombreux projets parallèles des membres du groupe commencent à porter leurs fruits et que l'intérêt pour Faith No More se décline. Après 15 longues et fructueuses années, donc Faith No More décide de mettre fin aux spéculations concernant sa séparation imminente en se séparant. La décision des membres est mutuelle et il n'y aura pas de pointage du doigt ni de dénonciation de nom. De plus, cette séparation permettra désormais donc à chaque membre de poursuivre librement ses projets individuels. Et enfin et surtout, le groupe tient à remercier tous les fans et associés qui l'ont soutenu tout au long de son histoire. Sauf que en février 2009, les membres du groupe se réunissent pour la première fois donc en 11 ans et à la suite de ces retrouvailles, ils décident d'un commun accord de reformer le groupe. Et peu après cette annonce, ils confirment également une série de concerts en Europe et se sont officiellement lancés dans une nouvelle aventure avec certes un avenir encore incertain mais plutôt positif. Depuis, il y a eu deux nouveaux albums en 2015 et 2022 et le succès du groupe est toujours au rendez-vous et on les voit jouer sur des très grandes scènes. Comme sur des plus petites bien sûr, mais voilà, ils ont un public qui a grossi tout au long des années. Le claviériste du groupe, Roddy Bottom, a été l'un des premiers rockers célèbres ouvertement gay, annonçant avec désinvolture son homosexualité dans une interview de 1993 pour The Advocate, avec le journaliste gay iconique Lance Lord. Et il a donc devancé le metal god Rob Halford de 5 ans. Et ça, c'est pas n'importe quoi. Allez, on continue notre aventure sur la route arc-en-ciel et j'ai envie de vous parler maintenant d'un groupe qui me tient vraiment à cœur et qui continue de cartonner dans le monde. D'ailleurs, en ce moment, ils sont en tournée avec Iron Maiden dans le cadre de leur tournée Run For Your Lives Tour.
Tears in my eyes, but I just keep going. I climb hell.
Et c'était Hailstorm, groupe américain de heavy metal originaire de York, en Pennsylvanie. Le groupe est actuellement signé chez Atlantic Records et a réalisé son premier album éponyme en avril 2009, Suis Strange Skies Off en 2012, dont le premier single Love Bites est également récompensé d'un Grammy Award dans la catégorie de la meilleure chanson hard rock metal le 10 février 2013. En 2015 sort l'album Into the Wildlife, suivi en 2018 par Vicious, dont le single Uncomfortable est nommé aux Grammy Awards dans la catégorie Meilleure Prestation Rock. Leur dernier album en date, Back from the Dead, est sorti en 2022 et ils ont également sorti plusieurs EP, notamment quelques albums de reprise. Et j'attends impatiemment la sortie de leur prochain album, dont plusieurs titres ont déjà été dévoilés ces dernières années, dont Everest que vous avez écouté. La chanteuse Lizzie Hale est une rockstar à bien des égards. Elle était évidemment une chanteuse et guitariste pour Hailstorm, et c'est aussi un formidable modèle pour les femmes et les filles dans le métal. Mais c'est aussi l'une des plus grandes icônes LGBT. Et oui, dans une nouvelle interview avec Metal Hammer, Hale raconte comment son coming out bisexuel, fait avec désinvolture, a suscité de vives réactions. Elle admet ne pas avoir réalisé combien de personnes ignoraient sa bisexualité, qui pourtant était clair selon elle, hormis son entourage proche et ses camarades de groupe et ses amis et ses parents. Elle tient à sa vie privée, mais elle aime aussi exprimer ouvertement son identité. Et en juin 2022, elle a célébré le mois des fiertés avec une publication Instagram où elle a évoqué son identité et les difficultés qu'elle a rencontrées au début. Actuellement, comme je le disais, le groupe s'offre une petite tournée en première partie d'un groupe pas très très connu qui s'appelle Iron Maiden. Mais bon, juste ça, ça confirme quand même aussi leur statut de groupe méga culte des années 2000. Allez, je vous propose qu'on reste un petit peu aux States, parce qu'on y est bien quand même, et on va parler juste après donc d'un groupe devenu l'une des références incontournables du metal alternatif. Est-ce que vous connaissez Life of Agony ?
Thank you.
Et vous êtes bien toujours sur Radio B dans votre Afterwork Metal, cette fois-ci aux couleurs de l'arc-en-ciel. On continue notre voyage à la découverte d'artistes LGBTQIA+, et on vient d'écouter Life of Agony. Life of Agony donc est un groupe de metal alternatif américain originaire de Brooklyn, New York, formé en 1989 par le chanteur Case Caputo, le bassiste Alan Robert et le guitariste Joey Zedd. Le groupe a sorti 6 albums studio à ce jour, notamment leur premier album Rivers Runs Red en 1993, nommé par Rolling Stone Magazine comme l'un des plus grands albums de metal de tous les temps. En juillet 2011, leur chanteur Case Caputo a fait son coming out en tant que transgenre et a pris le nom de Mina Caputo. Cependant, en novembre 2024, il avait envie d'un petit peu de changement et donc il a annoncé qu'il était en train de se détransitionner et qu'il soutenait actuellement fortement la nouvelle élection de Trump, puisque ce dernier avait promis d'interdire le changement de sexe pour les mineurs. On lui pardonnera ce soutien et puis on restera focus sur sa musique. Sa capacité de passer d'une voix de baryton à une voix aiguë est très remarquable et je suis très curieux de voir ce que le groupe va pouvoir nous proposer par la suite. À moins qu'il ne se sépare encore une troisième fois comme ils l'ont déjà fait. Allez, ceux qui me connaissent savent que j'aime profondément la prochaine artiste. Et en même temps, comment ne pas l'aimer, parce qu'avec sa voix remplie d'émotions, son histoire et son parcours, elle est juste incroyable. Je pense qu'il est temps qu'on parle un petit peu de Mathilde Gerner.
Je marche dans la rue, t'es partout et je te traque. Je vois ton corps nu, t'es parti, oh mon cœur craque. Je suis tes pas dans les flaques et je m'attache. Je suis dans de beaux draps, je lave mon lit à l'ammoniac. Je casse mon matelas, te l'envoie. Sac. Je panique, attaque et je m'arrache. Il pleuvait, il pleurait, ses larmes coulaient sur sa joue. J'ai tout fait dans le vacarme de nos cœurs qui tombaient à genoux. On a joué, collé serré, dis est-ce que tu regrettes d'allumer la tempête, même pas mal. Tu m'as roulé comme j'ai roulé ta dernière cigarette. On s'est embrasé quand tu m'as embrassé. Maintenant le temps s'arrête. T'as soufflé l'allumette, ça fait mal. Il pleuvait, elle pleurait, ses larmes coulaient sur ses joues. J'ai tout fait dans le vacarme de nos cœurs qui tombaient. J'ai tout fait pour rester un peu plus longtemps dans son cou. Elle pleurait, il pleuvait, ça a rendu nos adieux flous. Il pleuvait, il pleurait à la pluie, c'est bien foutu.
Et c'était donc Oshi, de son vrai nom Mathieu Djerner, artiste française née le 14 septembre 1996 à Versailles. Et elle passe sa jeunesse à Saint-Quentin en Yvelines. La musique s'impose très rapidement comme une évidence pour elle, puisqu'elle découvre le piano à seulement 6 ans et la guitare à 15 ans. Âge où elle commence également à écrire ses premières chansons. Son nom Oshi signifie « étoile » en japonais et souligne son amour pour ce pays et sa culture. Elle commence à chanter dans la rue et se fait repérer ensuite par une manageuse qui la signe sur son label. En 2018, Oshi sort son premier album intitulé « Il suffit d'y croire » sur lequel figure le titre « Ta marinière » qui parle d'un amour de jeunesse. Ce titre rencontre un franc succès. En 2022, elle se produit sur la scène des Victoires de la musique avec sa chanson « Fais-moi signe » dans lequel elle évoque ses soucis de santé. Le 1er septembre 2023, elle sort son premier album. Son nouvel album « Cœur parapluie ». Depuis ses 6 ans, Oshi souffre de la maladie de Meniere et la chanteuse a révélé avoir déjà perdu la moitié de son audition. On espère donc la voir encore de nombreuses années à nos côtés pour nous délivrer toujours autant de chansons magnifiques. Elle nous aura fait rêver avec son histoire d'amour avec sa manageuse Gia Martinelli, mais comme l'amour ne dure jamais très longtemps, leur histoire a pris fin en 2024. Et cela a profondément touché Oshi qui, pour l'occasion, a sorti plusieurs titres où elle parle de la rupture. Et elle a même sorti une réédition de son album Cœur parapluie avec des chansons réenregistrées et des nouveautés. Et on a pu la voir ultra cartonnée aux côtés de Jennifer Ayash de Superbus pour une nouvelle version de la chanson Lola avec en guest suprême Nicolas Sirkis d'Indochine. Et vous pourrez retrouver Oshi parmi nous, oui oui, dans l'Ain, auprès des oiseaux de la Dombe, car elle se produira en septembre au Parc des Oiseaux dans le cadre des musicales du parc. Allez, je vous propose par la suite qu'on retourne un petit peu du côté du métal, le métal très moderne de Paris. Et c'était donc Paris, ce groupe de pop-rock alternatif américain formé à Lowell dans le Massachusetts en 2012. Après plusieurs changements de line-up, le groupe est maintenant composé uniquement de la chanteuse Lynn Gunn. Lynn est présente depuis la fondation du groupe qui s'appelait avant Opération Guillotine. Et en 2013, Gunn remplace Kyle Anthony en tant que chanteuse et guitariste. Pour des raisons juridiques, justement, le nom du groupe a été officiellement changé en Paris le 26 juillet 2013. Gunn est une voix LGBT de premier plan sur la scène musicale alternative. Elle a déclaré dans une interview pour Rolling Stone qu'elle avait révélé son homosexualité à ses parents pour la première fois à l'âge de 18 ans, en laissant une lettre sous l'oreiller de sa mère avant de partir en tournée. Gunn était l'une des nombreuses artistes invitées par GLAAD et Billboard à parler de son histoire de coming out pour la journée nationale du coming out en 2017. Elle a mentionné le soutien de sa famille pendant qu'elle faisait son coming out et a encouragé les autres à chercher du soutien autour d'eux. Gunn a remis l'Icon Award à Laura Jane Grace du groupe de punk rock américain Against Me lors de la cérémonie des APMA Awards en 2017. Allez, bah tiens, pendant que j'y suis, je vous parle de Against Me, mais est-ce que vous connaissez ce groupe-là ? Eh ben non, et ben justement, avant d'en parler, on va s'écouter leur chanson Sink Florida Sink.
Not one more word tonight between here and there. We'll put a distance the size of the oceans, so now his heart can be a skipping rhythm as the cadence carries me. I almost drift away far enough to forget when it comes to you cannot hesitate. Understanding that you will see what is wrong with everything. What is wrong with you and me that makes all the right reasons to fuck it up? You're gonna fuck it up.
Et c'était donc Against Me, groupe de punk rock américain fondé en Floride en 1997 par Laura Jane Grace. En mai 2012, Grace annonce publiquement sa transidentité après avoir souffert de dysphorie de genre depuis son enfance et après avoir commencé sa transition. La dysphorie de genre devient le thème de leur sixième album Transgender Dysphoria Blues, un album concept qui parle d'une prostituée transgenre. Grace révèle plus tard qu'il ne s'agit cependant pas d'une autobiographie. En 2016, elle est en couple avec une artiste totalement différente du milieu punk rock, la toute douce Cœur de Pirate, mais oui, vous la connaissez, même si leur histoire sera de courte durée. Et comme vous avez pu le voir, j'ai étendu cette émission à plusieurs genres musicaux, du punk rock au metal en passant par la pop et la folk. Et je vous propose pour la suite justement de découvrir un duo magique, dont les voix ne cessent de me faire frissonner à chaque fois.
We didn't do it. For the money, we didn't do it. For the money, we didn't do it. I don't know why. I don't know why. I don't know why. I don't know why. Get in my car. It's too full. Get in my car. It's too full. We didn't do it to be happy. To be happy. We didn't do it to be happy. We didn't do it. I don't know why. I don't know why, I don't know why.
Et c'était donc Tegan and Sarah. Je vous assure qu'on va en parler pendant un petit moment, donc asseyez-vous bien. Tegan and Sarah, c'est donc deux sœurs et deux guitares. Des plaisanteries sur scène sur la diarrhée, la possibilité toujours présente que des chamailleries amicales puissent soudainement dégénérer en effusion de sang, et des chansons pop-rock qui vous prendront au dépourvu aussi sûrement qu'une mère d'une mère fan de football dans un SUV qui tape sur son téléphone portable. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, accueillez Tegan and Sarah. Le duo a sorti 10 albums studio et a été nominé aux Grammy Awards de 2012 pour leur album vidéo Get Along. Leur album le plus récent, Cry Baby, est sorti le 21 octobre 2022. Leurs mémoires High School sont sortis le 24 septembre 2019 et à l'automne 2022, la série télévisée basée sur leurs mémoires est sortie sur Amazon Freeview. Les deux jumelles sont homosexuelles et toutes deux sont mariées. En 2018, Tegan a épousé Sophia Snow après s'être fréquentée pendant 2 ans. Et en 2011, Sarah a épousé sa petite amie de longue date, Stacy Rader. Et en août 2022, elles ont accueilli leur premier enfant, un fils. À l'âge de 19 ans, les deux sœurs ont quitté leur ville natale de Calgary, en Alberta, pour s'installer à Vancouver, en Colombie-Britannique. En 2003, Sarah a déménagé à Montréal et Tegan a vécu à Vancouver et à Los Angeles pendant de nombreuses années, tandis que Sarah a vécu à Montréal et à New York. En 2019, Tegan et Sarah retournent toutes les deux finalement à Vancouver. Les deux filles sont actives, engagées politiquement et socialement et défendent l'égalité LGBTQIA+. L'éducation musicale et l'alphabétisation et la recherche sur le cancer. En 2012, elles sont apparues sur la couverture du numéro proteste du magazine Under the Radar. Et toutes deux ont été photographiées tenant une pancarte « Les droits de la minorité ne devraient jamais être soumis aux caprices de la majorité ». De plus, elles ont activement soutenu des étudiants québécois qui protestaient contre le gouvernement provincial au Canada. Aux États-Unis, les deux se sont exprimées lors de débats sur la proposition en Californie. En 2013, le groupe s'est associé à Cool House, leur camion de sandwich à la crème glace préféré, pour créer un sandwich à la crème glacée en faveur du mariage homosexuel. Le sandwich comportait des biscuits double chocolat et de la crème glacée au caramel beurre salé et a été nommé Till Dust Do Us Part. Le duo s'est associé à Revel and Riot pour créer un t-shirt qui financerait la mission de Revel and Riot pour les droits LGBTQIA+. Le t-shirt animaux représente Tegan and Sarah, une tortue, un renard, un koala, un pingouin et une libellule, tous étiquetés avec leur nom latin. Le texte en bas se lit comme suit. Le comportement gay se retrouve chez plus de 1500 espèces. L'égalité LGBTQ, maintenant, tous les bénéfices de la vente sont reversés au travail de Revel and Riot. En raison de l'expansion de leur public, Tegan and Sarah ont acquis une plus grande visibilité dans la communauté LGBTQ et elles ont reçu le prix de l'artiste musical exceptionnel en juin 2014. Tegan et Sarah se sont jointes à la World Pride pour se produire lors des cérémonies de clôture au Young Douglas Square, au centre-ville de Toronto. Le 10 novembre 2016, plutôt que de boycotter la Caroline du Nord pour HB2, Tegan and Sarah se sont produites à l'Orange Peel et ont fait don de leurs recettes à Equality North Carolina pour lutter contre la législation. Cela a inspiré le groupe Matt & Kim à doubler leurs dons avec les recettes de leur merchandising. En décembre 2016, dans la foulée de l'élection présidentielle américaine, les sœurs ont fondé la fondation Tegan and Sarah pour plaider en faveur de la justice économique, de la santé et de la représentation des filles et des femmes LGBTQ. Depuis, elles se sont associées à Kiehl's pour lancer des nettoyants ultra-faciales avec un emballage en édition limitée afin de collecter des fonds pour la fondation. Oui, dans une émission métal, on parle un petit peu de tout et même de beauté, de soins et de tout ce que vous voulez. les bénéfices de The Con X Covers et une partie des prix du billet de la tournée du 10e anniversaire ont été reversés à la fondation Tegan & Sarah. À la fin de la tournée, elles ont annoncé leur intention de prendre 2 ans de pause pour se concentrer sur la fondation justement et faire un nouvel album. Et en 2024, elles ont commencé à militer en réponse à la nouvelle politique présentée par le Parti conservateur uni de l'Alberta. Le projet de loi proposé devait avoir un impact sur les jeunes LGBTQ en les exposant à leurs parents s'ils utilisaient de nouveaux pronoms ou non à l'école et en limitant les soins médicaux pour les jeunes transgenres. La fondation Tegan & Sarah a publié une lettre ouverte signée par plus de 400 musiciens canadiens dénonçant la politique de l'UCP. Les deux femmes en ont profité de leur discours pour dénoncer cette politique. Les sœurs sont cousines également de la musicienne Jen Twin Payne, batteuse et chanteuse principale du groupe vancouverois The Courtenays, que vous connaissez peut-être. Allez, je vous propose par la suite qu'on continue, cette fois dans du métal, mais du métal bien à l'ancienne, avec le métal de King Cobra. Si vous connaissez les années 80, vous savez que la scène musicale de l'époque explosait avec une abondance de grands groupes de rock, y compris des vendeurs multiplatines comme Motley Crue, Quiet Riot et Rat, mais il y avait aussi toujours de la place pour de nouveaux prétendants talentueux. Pour King Cobra, par exemple, il s'agissait d'une invitation du ciel de se lancer dans un paysage qui était prêt pour le hard rock tueur, les ventes énormes et le temps d'antenne illimité. King Cobra a été formé en Californie en 1983 et dirigé par le batteur chevronné Carmine Appice. Trois chansons ont été suffisamment fortes pour permettre à King Cobra d'obtenir un contrat avec Capitol Records. Et le producteur Spencer Proffer, qui s'occupait de Quiet Riot, de Wasp et de Cheap Trick, insistait cependant pour que le tout nouveau matériel soit publié pour les débuts du groupe sur un label majeur. Et les démos du groupe sont mises au rebut pour ne jamais être publiées. Pendant les trois années qui suivent, King Cobra a fait le tour du monde parcourant l'Amérique du Nord et du Sud ainsi que certaines parties de l'Europe et du Japon, en première partie des têtes d'affiche aussi redoutables que Kiss, Iron Maiden et Queensryche. Pendant ce temps, le groupe tente de réintroduire leurs démos originales oubliées en ajoutant les lignes de basse de Rod, mais ils sont obligés de les mettre à nouveau de côté tant qu'ils ne peuvent pas inclure en fait Philips et Sueda. En 1995, après 5 ans de réflexion, King Cobra s'arrête brutalement. Et dans le même temps, le chanteur du groupe, Mark Free, quitte le monde de la musique et la même année, il subit aussi une opération de changement de sexe et devient Marcy Free. En 2010, un nouveau King Cobra émerge avec Carmine Appice à la batterie, Paul Shortino au chant et Mike Sueda à la guitare, David Herzing à la guitare également et Johnny Rod à la basse. L'album de réunion tant attendu de King Cobra, intitulé sobrement King Cobra, sort sur Frontiers Records en 2011 et ne laisse aucun doute sur le fait qu'il s'agisse d'un groupe avec lequel il faut compter pour les futures années. Même si près de 25 ans s'étaient écoulés depuis la formation originale, l'énergie et l'immédiateté de l'attaque éclair du groupe n'avaient pas diminué d'un iota et les fans ont réagi de la même manière qu'à l'époque. Le groupe fait une nouvelle pause après la sortie de leur album de 2013, en grande partie à cause des autres engagements des membres individuels du groupe. Ils ont cependant joué des concerts en 2016 sans Mick Sueda. Le 27 juillet 2018, King Cobra sort son tout premier album live, Sweden Rock Live, enregistré à l'origine en 2016. Quand on pense à King Cobra, on a une vision un peu de 4 blondes décolorées à l'avant avec un des plus grands batteurs du rock du monde dans le siège du conducteur. Voilà, sous ce battage médiatique et les joues grisantes de la scène hard rock des années 80, il y avait quand même de véritables poussées de génie inhérentes de la part de groupes comme King Cobra, qui se vantaient d'avoir des chansons fortes et qui proposaient des performances exubérantes. Allez, on parle d'exubérance, c'est bien, mais si on revenait du côté un petit peu plus, pas forcément mainstream, mais auprès d'un groupe que vous connaissez forcément, vous avez même peut-être déjà chanté leurs chansons. C'est bien sûr le mythique groupe Placebo qui aura conquis le cœur de nombreuses générations et je vous propose maintenant leur chanson Every You, Every Me.
Our passion spent, my heart's at heart, your body's rent, my body's broken. You-
Et c'est donc en 1994 que le groupe Ashray Hearts joue, comme souvent, avec Stephen Osdall, invité par Brian Molko, ces deux-là vont être captivés par le groupe. C'est alors qu'il propose à Brian et Steve Hewitt de prendre la place vacante de bassiste, et ces derniers acceptent, mais malheureusement Steve doit partir en tournée avec son groupe Breed. Stephen et Brian ne chôment pas pour autant, et s'affairent à composer tous les deux 4 pistes avec leur magnétophone. Sauf qu'un groupe de rock, c'est quasiment rien sans batteur, et c'est pour ça que Stéphane décide de faire appel à un vieil ami d'enfance suisse, Robert Schulzberg, alors à Londres pour suivre des études dans la musicologie. C'est alors que naît officiellement le groupe Placebo, Placebo qui signifie « je plairai ». Nom évocateur pour ce groupe qui cherche à se faire connaître. Le premier concert du groupe a lieu au Club Rock Garden de Camden, au centre de Londres. Placebo enregistre ensuite 6 démos que le groupe envoie à diverses maisons de disques. Le nom Placebo apparaît pour la première fois en octobre 1995 pour une version de Breeze Pristine sur un disque partagé avec le groupe Soap sous le label Fierce Panda. Après ça, le groupe signe un contrat avec UT, une maison de disques affiliée à Virgin Records. En décembre 1995, avec la sortie du single Breeze Pristine, David Bowie, séduit par ce qu'il a entendu de Placebo, leur propose d'assurer sa première partie anglaise. Et oui, dès le début, il cartonne avec David Bowie. C'est une chance et un énorme privilège pour le trio qui, au printemps 1996, enregistre son premier vrai album éponyme dans un studio de Dublin avec le producteur Brad Wood. L'opus sort en juillet 1996 et l'aventure commence alors très sérieusement. Avec la sortie de leur nouvel album, le groupe participe au film Velvet Goldmine, dans lequel les 3 membres font une apparition et où ils reprennent le tube de T-Rex, 20th Century Boy, pardon. Le film sort en septembre 1998 et la chanson Without You, I Am Nothing fait partie de l'album qui, en plus d'assurer la notoriété du groupe, est présenté quand même comme l'un des meilleurs de leur discographie grâce à ses textes remplis d'amour mélancolique et ses mélodies enivrantes. Et après la tournée du Black Market Music, le groupe s'accorde une pause de 6 mois et commence à travailler sur leur 4e album dans les studios Air Rock de Londres. L'enregistrement dure environ 4 mois et l'album Sleeping with Ghosts, tant attendu, sort le 23 mars 2003. Et c'est à l'occasion des 10 ans du groupe que sort la compilation de singles Once More With. Les nouveaux fans donc vont s'intéresser alors au passé musical du groupe et découvrent petit à petit les perles des premières années. Ceci dit, le futur est une chose importante, sinon primordiale pour un groupe, et quoi de plus naturel qu'un nouvel album, puisque du coup, après la sortie de Once More With Feeling, le groupe s'accorde une longue pause nécessaire à leur repos. Brian choisit de partir en Inde, alors que Stefan part en Espagne pour s'occuper de son projet secondaire, Hotel Persona. Et Steve, lui, il s'envole pour l'Australie. Le trio, après avoir conquis une bonne partie de la planète, s'attaque maintenant donc aux États-Unis, puisqu'ils vont revenir évidemment après leur pause, et ça fonctionne. Ils effectuent une tournée de 2 mois et le public est présent, Placebo est pas peu fier d'avoir touché toutes les générations de fans, et ils pensent maintenant à conquérir le monde entier. Le 1er octobre 2007, Steve Hewitt quitte le groupe pour raisons personnelles et divergences musicales avec le reste du groupe. La musique de Placebo a généralement été étiquetée comme du rock alternatif et ils ont cependant également incorporé différents sons dans leur musique tout au long de leur carrière. Et voilà, pourquoi est-ce qu'on en parle aujourd'hui? En fait, et bien tout simplement parce que certains musiciens dans le groupe, comme le chanteur, comme Brian Molko, ont cultivé leur androgynie en évoquant la bisexualité. Molko a souvent défrayé la chronique, alimentant encore un peu plus l'image sulfureuse du groupe. Voilà, dans ce registre, par exemple, Brian Molko et Stefan Holsdal, en 1999, vont insuffler à Placebo toute une imagerie glamour en se produisant sur scène dans des tenues féminines et en jouant la provocation à l'égard de la bien-pensance par une séduction l'un envers l'autre, souvent pour le plus grand plaisir du public. S'étant souvent prononcé au sein de Placebo sur de nombreux sujets de société, et notamment pour la liberté de chacun à mener sa vie comme il l'entend, et en particulier en ce qui concerne la sexualité, Molko est une icône de la tolérance et de marginalité pour beaucoup de monde. Allez, je vous propose qu'on continue. Il nous reste encore quelques petites chansons, mais on a bientôt terminé malheureusement. Je vous propose là qu'on passe à une artiste que j'apprécie énormément et que j'ai pu découvrir grâce à mon père et ses vinyles. Et donc c'est parti pour la talentueuse Melissa Etheridge.
You found out to love me. You have to climb some fences, scratching and crawling along the floor to touch you. And just when it feels right, you say you found someone to hold you. Does she like I do? Baby, tell me, does she love you like the way I love you? Does she stimulate you, attract and captivate you? Tell me, does she miss you, existing just to kiss you like the way I'm
Et c'était donc Melissa Etheridge qui a fait irruption sur la scène rock américaine en 1988 avec la sortie de son premier album éponyme, acclamé par la critique, ce qui lui a permis de participer à la cérémonie des Grammy Awards en 1989. Pendant plusieurs années, sa popularité s'est accrue autour de thèmes originaux et de musiques mémorables telles que Bring Me Some Water, No Souvenirs et Ain't It Heavy, pour lequel elle a remporté un Grammy Awards en 1992. Etheridge a atteint son rythme commercial et artistique avec son quatrième album, Yes I Am. La collection comprend les succès massifs I Am The Only One et Come To My Window, une chanson brûlante de nostalgie qui a valu à Etheridge son deuxième Grammy Awards de la meilleure performance rock féminine. En 1995, Etheridge sort son album le plus populaire, Your Little Secret, qui s'est distingué par le single à succès I Want To Come Over. Son succès stupéfiant cette année-là a valu à la chanteuse de recevoir le titre d'auteur-compositeur de l'année aux ASCAP Pop Awards de 1996. Connue pour ses paroles confessionnelles et sa voix rauque et enfumée, Etheridge est restée l'une des chanteuses préférées des États-Unis pendant plus de deux décennies. En février 2007, Melissa a célébré une étape importante de sa carrière en remportant la catégorie de la meilleure chanson aux Oscars pour I Need to Wake Up, écrite pour le documentaire d'Al Gore sur le réchauffement climatique. Une vérité qui dérange. En tant qu'interprète et auteur-compositrice, Etheridge s'est révélée être une artiste qui n'a jamais laissé les vérités dérangeantes la décourager. Plus tôt dans sa carrière d'enregistrement, Etheridge a reconnu son orientation sexuelle alors qu'il était considéré comme plus que prudent de le faire à l'époque. En octobre 2004, Etheridge a reçu un diagnostic du cancer du sein, une bataille de santé qu'elle a gagnée avec sa ténacité habituelle. Bien qu'elle ait perdu ses cheveux à cause de la chimiothérapie, Etheridge est apparue dans l'émission télévisée des Grammy Awards en 2005 pour chanter « Piece of My Heart » en hommage à Janis Joplin. Ce faisant, elle a donné de l'espoir à de nombreuses femmes atteintes de la maladie. Le 7 octobre 2016, Melissa sort « Memphis Rock and Soul », son premier album depuis « This is M.I. ». Enregistré au Royal Studios de Memphis, l'album a reçu des critiques élogieuses de la part d'Entertainment Weekly, Parade et Rolling Stone. Elle a poursuivi avec la sortie de The Medicine Show en avril 2019 et pour The Medicine Show, justement, elle a retrouvé son célèbre producteur John Chank et cet album-là sonne plus excitant que jamais, apportant un tout nouveau niveau de son pour ce 15e album. En juin 2020, Etheridge lance la fondation Etheridge pour soutenir la recherche scientifique révolutionnaire sur de nouveaux traitements efficaces contre les troubles liés à l'utilisation d'opioïdes. La fondation s'efforce de faire progresser les approches de traitement qui s'attaquent aux causes profondes de l'abus d'opioïdes et qui mettent à la disposition des gens des solutions meilleures et plus efficaces pour vraiment guérir leurs troubles. En 2021, elle est revenue avec son nouvel album One Way Out. L'album de 9 titres est une collection de chansons qu'Etheridge avait écrites à la fin des années 80 mais qu'elle n'avait jamais sorties jusqu'à maintenant. Le moment est donc venu et les fans aperçoivent les sentiments que Etheridge avait à l'époque, voilà, dans les années 80-90. Donc ça permet à ses fans de la connaître un petit peu plus. En octobre 2022, Melissa revient au théâtre avec son spectacle solo My Window, A Journey Through Life. Acclamé par la critique et le spectacle quand même à guichet fermé, la première a eu lieu au New World Stages le 13 octobre et a débuté au Circle in the Square Theater de Broadway en septembre 2023. En 2024, Melissa sort donc Melissa Etheridge, I Am Not Broken, une série documentaire en deux parties qui sort sur Paramount+, ainsi qu'un album live qui l'accompagne. Enregistré en direct dans l'enceinte de l'établissement correctionnel de Topeka, l'album et la série documentaire en deux parties suivent son parcours, à la fois en écrivant et en interprétant une chanson originale, inspirée de sa correspondance avec les résidences du TCF. Et elle présente des versions brutes et entraînantes des chansons préférées des fans et de chansons originales spécialement sélectionnées pour l'occasion. Une artiste donc à découvrir sous toutes ses coutures, alors foncez absolument, écoutez l'entièreté de sa discographie puisqu'elle n'a pas fini de nous faire rêver. Chers auditeurs, on va devoir s'arrêter, oui, malheureusement, sur la prochaine chanson, mais ne vous inquiétez pas, je reviendrai très vite vers vous pour une prochaine émission. Pour terminer, j'ai donc choisi de vous offrir la fameuse et la grande et l'unique Demi Lovato. Oui, Demi Lovato, autrice, compositrice, interprète et actrice américaine, née le 20 août 1992 à Albuquerque. Elle est également mannequin et entrepreneur. Elle fait ses débuts dans la comédie très jeune en jouant dans la série pour enfants Barney en 2002, mais c'est en 2008 que la reconnaissance grandit grandement, bien sûr, avec le rôle principal dans le téléfilm de Disney Channel Camp Rock, et en 2009 dans la série à succès de la même chaîne Sony With A Chance. En 2008, elle signe avec le label Hollywood Records et sort 6 albums, Don't Forget, Here We Go Again, Unbroken, Demi, Confident and Tell Me You Love Me, qui ont tous fait leur début dans le top 5 du Billboard 200. Sa carrière prend un tournant avec son troisième album, Unbroken, dont on a parlé juste avant, sorti en 2011, qui arrive à la quatrième place du Billboard 200 et dont sont extraits les singles Skyscraper et Give Your Heart a Chance, qui ont connu un grand succès critique et commercial. Elle a également continué à apparaître à la télévision en tant que juge de l'émission du concours de chant The X Factor entre 2012 et 2013. Lovato a rendu public son diagnostic de trouble bipolaire. L'artiste s'est ouverte sur son trouble et sur toutes les difficultés qu'elle avait dans sa vie dans le documentaire de 2017 Demi Lovato Simply Complicated, sorti peu de temps après son album Tell Me You Love Me. En mai 2019, Lovato a signé un contrat avec le manager Scooter Braun qui supervise également les carrières de Justin Bieber et Ariana Grande, donc c'est pas rien. Et l'année suivante, elle rend publique aussi sa relation avec l'acteur et chanteur Max Heinrich. Le couple s'est fiancé en juin 2020, mais a mis fin à sa relation en septembre 2020. En clair, c'était un mariage très court, hein. Demi Lovato a toujours agi de manière très ambiguë, en laissant planer le doute sur son attirance pour les filles ou non. Et c'est ça qui est assez cool avec elle, c'est qu'on ne saura jamais tant qu'elle ne l'annoncera pas officiellement. Et donc c'est bien d'avoir un petit peu de secret aussi. Même si elle chante dans un style plus pop depuis quelques années, elle reste très attachée à l'univers rock de ses débuts et elle a donc tout naturellement proposé en 2023 un best-of de ses plus grandes chansons, mais revisité en version rock-metal-punk pour notre plus grand plaisir. Allez, on va devoir vraiment se quitter maintenant, je sais, c'est triste. Si vous ne savez pas quoi faire ce week-end, je serai au Triplette Social Club à Ambérieu-en-Bugey pour une soirée metalcore avec les groupes By Jupiter, Yanoui et A Place to Die ce vendredi soir. Et si la distance ne vous effraie pas et que vous avez kiffé Ian Will et A Place to Die ce soir aux Triplettes, alors venez demain en masse à l'Empérage de Grenoble pour la Nuit du Métal, avec en plus des deux précédents, March of Scylla et Theory qui compléteront l'affiche. Et c'est donc avec City of Angels de Demi Lovato que je vous laisserai ce soir. Chers auditeurs, chers rockers, je vous dis à très vite et passez une très belle soirée. For 15 years and bored to tears, there's nothing left to do. This town is heaven sent, but better.